le chapitre 19 de la Genèse. Nous lisons le récit de Lot, de sa famille et de Sodome et Gomorre. Au chapitre 19, verset 15, nous lisons « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Nous savons qu'il était juste, et nous concentrons souvent notre attention sur sa femme, qui semblait vraiment désirer ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais nous lisons dans 2 Pierre qu'il était un homme juste. Même après que les hommes de la ville ont tenté de violer ses deux invités et qu'ils ont refusé sa proposition de violer et d'abuser ses deux filles, il est dit qu'il s'est attardé. Malgré la puanteur de la société de Sodome, il était attiré. Peu à peu, il semble qu'il soit devenu insensible et qu'il ait accepté dans une certaine mesure leurs coutumes et leurs normes. Comme une grenouille dans une casserole d'eau chaude, nous avons été exposés à une détérioration progressive de nos coutumes et de nos normes dans notre propre culture. Voici un extrait du site QResearch.org intitulé « Comment l'opinion publique américaine a évolué en 20 ans d'enquête ». Cette section se lit comme suit. Un revirement de l'opinion publique sur le mariage homosexuel. Le premier mariage homosexuel aux États-Unis a eu lieu en 2004 dans le Massachusetts, à la consternation des deux candidats à la présidence de l'époque, le républicain George W. Bush et le démocrate John Kerry. Leurs opinions reflétaient celles du grand public. Cette année-là, 31% des Américains étaient favorables au mariage homosexuel, tandis que 60% s'y opposaient. En 2023, l'attitude à l'égard du mariage entre personnes du même sexe s'était manifestement inversée. 63% des Américains y étaient favorables et 34% s'y opposaient. Depuis, le premier mariage entre personnes de même sexe a été légalement reconnu aux Pays-Bas en 2001. De nombreux pays ont suivi une voie similaire à celle des États-Unis. L'opinion internationale sur le mariage entre personnes du même sexe varie, mais en général, elle est de plus en plus favorable depuis une dizaine d'années. Le mariage homosexuel est actuellement légal dans plus de 30 pays, principalement en Europe et en Amérique. L'article du Pew Research continue d'énumérer les sujets. Le sujet étant l'avortement. L'avortement est un autre sujet sur lequel les divisions partisanes se sont accentuées. En 2007, 63% des démocrates estimaient que l'avortement devait être légal dans tout ou la plupart des cas. Cette proportion est passée à 85% aujourd'hui, à la suite de la décision de la Cour suprême en 2022 de renverser l'arrêt Roe contre Wade qui avait consacré le droit constitutionnel à l'avortement en 1973. Cependant, 40% des républicains sont d'accord avec eux. Les opinions varient au niveau international, mais le soutien à l'avortement légal a généralement augmenté au cours de la dernière décennie en Europe, en Amérique latine et en Inde. En moyenne, 66% des adultes interrogés dans les 27 pays étudiés déclarent aujourd'hui que l'avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas. Au cours des 2 ou 3 dernières générations, les habitudes et les normes de notre culture ici aux États-Unis et dans le monde entier se sont détériorées, parfois rapidement, parfois très progressivement. Je ne pense pas vous avoir dit quoi que ce soit que vous ne sachiez déjà, mais un changement d'attitude du public m'a vraiment frappé au printemps dernier ici en Caroline du Nord. Auparavant, les formes légales de jeux d'argent en Caroline du Nord comprenaient la loterie pour l'éducation, 3 casinos indiens et des bingos de bienfaisance. Les opposants se sont opposés à l'expansion des jeux d'argent ici, au cœur de la Bible Belt, la ceinture de la Bible. Mais le 11 mars, la Caroline du Nord a rejoint 29 autres États et est devenue le dernier État à avoir légalisé les paris sportifs en ligne. Et immédiatement après, voici une autre citation. la Caroline du Nord a parié 198 millions de dollars au cours de la première semaine où les paris sportifs en ligne sont devenus légaux. Et un petit sous-texte ici, les habitants de la Caroline du Nord ont parié 198 millions de dollars au cours de la première semaine de légalisation des paris sportifs en ligne dans l'État. Un chiffre dopé par les tournois de basketball de la Ligue NCAA et par une avalanche de dollars promotionnels distribués par les sites de paris sportifs pour inciter les gens à parier, a annoncé mercredi la commission de la loterie de la Caroline du Nord. Aujourd'hui, il est impossible d'allumer une station de radio locale, du moins c'est ce que j'ai constaté le matin en me rendant au travail, sans être bombardé de publicités pour DraftKings ou FanDuel. Placez vos paris et nous vous donnerons même de l'argent en prime. Vous vous dites peut-être, vraiment? Est-ce si important? Devons-nous vraiment parler de jeux d'argent? Je sais que les jeux d'argent ne sont pas une bonne chose, je n'ai pas l'intention d'aller dans les casinos, mais est-ce vraiment important? Et quel est l'impact réel sur moi? J'aimerais prendre quelques instants cet après-midi pour vous montrer que, oui, c'est un problème important. Ce n'est pas un crime sans victime et il vous affecte. Commençons donc par cela. Qu'y a-t-il de mal, en principe, dans les jeux d'argent? Quel est le problème? D'ailleurs, le titre du sermon est « Jeux d'argent ». Jeux d'argent. Tout ce que j'ai essayé de trouver d'autre me semblait trop mignon. C'est pourquoi je l'appelle simplement « Jeux d'argent ». Si vous voulez lui donner un autre titre, faites-vous plaisir, mais je l'appelle simplement « Jeux d'argent ». Alors, quel est le problème? Je vais vous donner quatre points précis. Premièrement, cela cultive la convoitise. Cela cultive la convoitise. Exode 20, verset 17. Exode 20, verset 17. Nous lisons le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Quel est le lien entre les jeux d'argent et le dixième commandement contre la convoitise? Dans Exode 20, verset 17, le mot « convoiter » vient du mot hébreu « chamad ». Et il est intéressant de noter que c'est le même mot qui est utilisé pour « agréable » dans Genèse chapitre 2. Reportons-nous à Genèse chapitre 2, Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Le mot chamad est traduit ici au verset 9 par agréable. Mais il est aussi traduit par quelque chose de désirable. Nous allons maintenant de l'autre côté de la page au chapitre 3 de la Genèse. Au verset 6, Genèse 3, verset 6, dans Osterval, nous lisons « Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, ce n'est pas chamad ici, c'est un mot très différent, et que l'arbre était désirable, chamad, pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. » Ainsi, convoiter signifie désirer quelque chose d'agréable. Mais cela implique un mauvais type de désir, comme la cupidité. N'oubliez pas que lorsque vous jouez, vous convoitez l'argent de votre voisin. Vous ne gagnez pas cet argent. Vous n'offrez pas de biens ou de services en échange de cet argent. Vous voulez cet argent sans rien offrir en retour. C'est la définition classique de la convoitise. Éphésiens chapitre 5. Que lisons-nous à ce sujet dans le Nouveau Testament? Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Nous lisons, « Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, convoité en anglais, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Nous voyons que la cupidité, la convoitise, est ici associée à l'idolâtrie. Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, verset 1. Et le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la convoitise en anglais, qui est une idolâtrie. Paul dit donc que la convoitise est une idolâtrie. Pourquoi cela? Parce que c'est un désir qui est plus fort que notre désir d'aimer Dieu et de le placer en premier dans notre vie. Cela nous amène au problème suivant des jeux d'argent. Deuxièmement, cela nuit à l'amour du prochain. Cela nuit à l'amour du prochain. Comprenez bien ceci. Lorsqu'une personne gagne de l'argent, c'est parce que d'autres personnes ont perdu de l'argent. Si nous espérons gagner, cela signifie que nous espérons que d'autres perdront. Il ne s'agit pas seulement de gagner la course ou le prix. Ils perdent leur argent pour que nous puissions gagner notre argent. Ou plutôt, nous puissions gagner leur argent. Vous allez peut-être dire, attendez une seconde. Toucher le jackpot, jouer aux machines à sous dans un casino, c'est battre la maison, n'est-ce pas? Ou si vous gagnez un pari sportif, cela ne signifie-t-il pas que vous avez battu la maison? N'est-ce pas de quoi il s'agit? D'où vient l'argent? Eh bien, elle vient de toutes les personnes qui ont versé de l'argent dans le système, en prenant de l'argent de leur famille, de leurs ressources, dans l'espoir de devenir riche. Le jeu n'est jamais gagnant-gagnant. C'est « je gagne, vous perdez, vous perdez, vous perdez, 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 perdez. » La semaine dernière, j'ai fait une très bonne affaire. Je veux dire une véritable aubaine. J'ai pu acheter un réfrigérateur à quelqu'un qui n'était pas très loin du bureau, entre le bureau et les dortoirs des garçons et des filles pour l'éducation vivante. Je ne vous dirai pas combien je l'ai payé, parce que c'était tellement peu que je serais gêné et que vous puissiez penser que je l'ai volé. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme à qui je l'ai acheté est un pasteur. Il était pasteur à la retraite de l'église Faith, Hope and Life Church, en bas de la rue, au coin de la rue, quand vous descendez Idlewood. Nous avons parlé de choses et d'autres, des activités auxquelles il participait, il me demandait ce que je faisais, et nous avons eu une conversation agréable. Nous l'avons porté ensemble. Soit dit en passant, c'est à peu près à ce moment-là que la pluie battante a commencé. Je pense que c'était jeudi soir. Alors nous étions trempés jusqu'aux os en transportant ce gros réfrigérateur jusque dans ma fourgonnette. J'ai fait une bonne affaire! Mais vous savez quoi? Il a gagné aussi, parce qu'il voulait le sortir de chez lui. Je pense qu'il me l'aurait donné si je l'avais demandé, parce qu'il avait besoin de faire de la place pour un autre réfrigérateur. C'était gagnant-gagnant. C'était gagnant-gagnant. Les jeux d'argent ne sont pas comme ça. Ça ne marche pas comme cela. C'est « je gagne et vous perdez, 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 et tout le monde perd. » C'est contraire au grand commandement de Dieu d'aimer son prochain. Romains chapitre 13. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Nous lisons ici, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Cette insistance sur l'importance de se préoccuper de ce qui arrive aux autres est présente dans toute la Bible, mais nous lisons ici quelques éléments spécifiques. Verset 9, alors qu'il explique ce que signifie aimer son prochain, il déclare, verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Comment cela s'accorde-t-il avec toute l'industrie des jeux d'argent? Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Dieu veut que nous ayons de l'empathie pour les autres. Dans les jeux d'argent, vous n'avez envie de vous réjouir que lorsque d'autres personnes ont envie de pleurer. Et vice-versa. Si vous dépensez votre dernier dollar pour un billet de loterie, ou si vous pariez de l'argent qui aurait pu être utilisé pour faire des courses ou pour toute autre chose productive et qu'il a servi à cette entreprise, vous ne vous en sentez pas bien. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il n'y a pas d'écriture, j'en conviens, qui dise « Tu ne joueras pas à la machine à sous ». Il s'agit d'appliquer les principes de la Bible, la pensée de Dieu ici. Quel est le rapport entre la définition biblique de l'amour et les jeux d'argent? J'ai cité quelques passages bibliques. Nous pouvons également nous référer à 1 Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Toutes les Écritures soulignent avec emphase que nous devons nous préoccuper du bien-être de notre frère, et non pas de notre bien-être par rapport à notre frère. L'amour peut également être défini comme la voie de donner plutôt que la voie de prendre. Et Dieu est le plus grand donateur, n'est-ce pas? Il nous donne le souffle de vie. Il est la source de tout don parfait et bon. Dieu veut que nous suivions son exemple et que nous vivions un mode de vie de don, en utilisant notre temps, nos talents, notre énergie pour donner aux autres. Les jeux d'argent, en revanche, sont axés sur l'obtention et non sur le don. Troisièmement, cela cultive le matérialisme. Cela cultive le matérialisme. Qu'enseigne la Bible sur le matérialisme? 1 Timothée chapitre 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le matérialisme, l'amour de l'argent et des choses que l'argent peut acheter et nous obtenir, est directement lié à la convoitise et à l'envie. Comme l'expliquent les Écritures, il est souvent autodestructeur. Quelqu'un est matérialiste lorsque l'argent et les choses physiques deviennent plus importants que les relations avec nos frères et les valeurs spirituelles. Proverbe 16, verset 16 déclare, Proverbe 16, verset 16, « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? » Le matérialisme peut nous faire perdre ce qu'il y a de plus précieux, à savoir la vie éternelle. Nous lisons cela dans Marc 10, où le Christ dit, Marc 10, verset 24, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, à ceux qui mettent leur confiance dans les richesses, leur problème étant résolu par un dollar de plus, par plus de richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quatrièmement, cela nuit à une éthique divine de travail. Cela nuit à une éthique divine du travail. En quoi le jeu est-il contraire à l'éthique biblique du travail? Les proverbes sont un excellent endroit pour nous donner une leçon sur ce sujet. Proverbes chapitre 10, verset 4. Proverbes chapitre 10, verset 4. Dieu louange la richesse provenant du travail. Verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbes 10, verset 16. Proverbes 10, verset 16. L'œuvre ou le travail du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Proverbe 12, verset 11. Verset 11 de Proverbe 12. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 13, verset 11. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse par son travail, peu à peu l'augmente. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines et rassasié de pauvreté. Il y a une valeur dans le caractère édifié par le travail. C'est l'antithèse d'une mentalité d'enrichissement rapide. Proverbe 21. Revenons quelques pages en arrière. Proverbe 21, verset 5. Verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. The New Living Translation dit « Une bonne planification et un travail acharné mènent à la prospérité, mais les raccourcis hâtifs mènent à la pauvreté. » C'est une formulation intéressante. Proverbe 28. Revenons à Proverbe 28 et le verset 20. Le verset 20 de Proverbe 28. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Là encore, la New Living Translation paraphrase ce verset d'une manière intéressante. La personne digne de confiance recevra une riche récompense, mais celle qui veut s'enrichir rapidement aura des ennuis. Puis, Proverbe 28, verset 22. Verset 22 de Proverbe 28, un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. La New Living Translation dit « Une personne cupide essaie de s'enrichir rapidement, mais cela ne mène qu'à la pauvreté, et souvent l'argent obtenu rapidement disparaît rapidement. » Vous connaissez bien Proverbe 23, verset 5. Proverbe 23, verset 5. « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Nous devrions donc passer notre temps à apprendre, à travailler, à construire et à servir les autres. En fait, au lieu de travailler dur, les jeux d'argent encouragent la corruption. J'ai un article ici intitulé « Pour les États, les jeux d'argent dans les casinos peuvent être un mauvais pari » qui provient de Pew Research. Les thèmes principaux de ce document, qui est assez long, sont centrés sur les conclusions des économistes Douglas Walker et Peter Calgagnon, qui ont constaté que les condamnations pour corruption publique ont augmenté dans les États après la légalisation des jeux de casino. Ils présentent différents États, 5 en particulier, qui ont enregistré des taux de condamnation pour des corruptions publiques nettement plus élevés lorsque les jeux d'argent ont commencé à s'y implanter. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'une activité tellement importante que beaucoup d'argent la suit. Le document souligne que des États comme le Mississippi, la Louisiane, l'Illinois et le Dakota du Sud, qui ont légalisé les casinos, affichent les taux les plus élevés de condamnation pour corruption publique, tandis que les États qui n'ont pas légalisé les casinos affichent les taux les plus bas. Vous savez, le désir de réussite financière doit s'inscrire dans une perspective divine appropriée. La parole de Dieu préconise la patience, la diligence, le travail acharné et la confiance en lui comme fondement du succès, et non sur un billet de loterie, une machine à sous ou un choix gagnant sur le Super Bowl. Nous reprenons la lecture des proverbes. En nous en tenant dans cette section à quelques-uns des nombreux proverbes qui mettent en lumière la manière dont nous gérons l'argent et notre attitude à l'égard de la richesse. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ainsi, si nous nous tournons vers Dieu pour qu'il réponde à nos besoins financiers, il n'y a pas de chagrin qui s'ajoute. Proverbe 15, verset 16. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et Proverbe 30, verset 7. Proverbe 30, verset 7. Proverbe 30, verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. J'ai donc parlé de l'idée des jeux d'argent, la loterie, les casinos avec leurs machines à sous et leurs tables de blackjack, les paris en ligne. Tout cela est en contradiction totale avec la pensée de Dieu. Je peux dire en toute confiance que nous n'entrerons pas dans une station-service au cours du millénaire pour acheter un billet de loterie de 5 numéros gagnants sur 36. Alors que nous réfléchissons à ces jours représentant le millénium, je crois pouvoir dire sans détour qu'il n'y aura pas de casino situé juste à l'extérieur des limites de la ville de Jérusalem. Et je pense pouvoir dire avec certitude que nous n'irons pas sur Internet pour parier sur une équipe sportive lors du Super Bowl au cours du millénium. Pourtant, vous pourriez encore peut-être dire « D'accord, mais quel est le problème? Cela ne me concerne pas. » Permettez-moi de vous répéter que l'ambivalence à l'égard du concept du jeu et franchement son acceptation pure et simple a explosé au cours des dernières années. Voici un autre article consacré aux paris sportifs. Il s'intitule « Près de 37 millions d'Américains devraient parier sur le sport en ligne d'ici 2025 ». L'article poursuit en indiquant que 29 États ont légalisé les jeux d'argent en ligne depuis que la décision de la Cour suprême a permis aux sites de jeux d'argent d'étendre cette pratique au-delà du Nevada en 2018. De nouvelles données montrent le nombre de personnes qui placent des paris en ligne. Une étude menée cette année par Insider Intelligence a révélé que 29,2 millions d'adultes aux États-Unis, soit 11% de la population adulte, devraient parier par l'intermédiaire d'un site de paris sportif en ligne cette année, soit une hausse de 18% par rapport à l'année dernière. La participation devrait augmenter dans les années à venir, avec près de 37 millions d'Américains, soit 14% de la population adulte américaine, qui devrait parier en ligne d'ici 2025. Cette tendance s'explique par l'accès accru au numérique et l'acceptation potentielle de la société. Il y a une dizaine d'années à peine, les paris étaient quelque peu tabous et souvent effectués en catimini. L'année dernière, 93,2 milliards de dollars ont été légalement pariés sur le sport aux États-Unis, selon l'American Gaming Association. La publicité a également joué un rôle majeur dans la visibilité des jeux d'argent sportifs en ligne. La société de conseil BIA, Advisory Service, estimant que l'industrie du jeu d'argent dépensera 1,8 milliard de dollars en publicité cette année. Les efforts publicitaires ne se limitent pas à la diffusion d'annonces. DraftKings, l'un des plus grands acteurs dans le secteur, a investi au moins 50 millions de dollars pour être le principal commanditaire de The Ben L'Avatar Show with Stu Gert, l'un des balados sportifs les plus populaires au monde. De son côté, Penn Entertainment a récemment signé un accord de 2 milliards de dollars pour rebaptiser son pari sportif ESPN Bet par une application mobile, un site web et des points de vente à l'horizon. Notre premier objectif est toujours de servir les adeptes de sport, et nous savons qu'ils veulent à la fois du contenu sur les paris et la possibilité de placer des paris avec moins de friction à partir de nos produits, a déclaré Jimmy Pitaro, président d'ESPN, lors d'une annonce faite ce mois-ci. Notre stratégie est simple, donner aux adeptes ce qu'ils demandent et attendent. C'est une affaire de gros sous. À l'heure où la dette s'envole, ce sont des milliards qui sont ainsi dépensés. Voici un autre article qui met en évidence le fait que les jeux d'argent sont une activité économique importante aux États-Unis. Ces données proviennent de Statista.com. Que ce soit à Las Vegas ou à Atlantic City, les États-Unis abritent certains des établissements de jeux les plus réputés au monde. En conséquence, bien que les lois et la réglementation relative aux jeux d'argent varient d'un État à l'autre, les jeux d'argent font indéniablement partie de l'iconographie culturelle des États-Unis. L'industrie du jeu est également un rouage important de l'économie américaine, avec un revenu brut commercial national atteignant 66,65 milliards de dollars américains en 2023. La majorité de ces revenus est générée par les machines à sous et les tables de jeu des casinos qui représentent environ les trois quarts du revenu brut des jeux total en 2023. Cette année-là, les recettes brutes du Nevada ont dépassé celles de tous les autres États américains, s'élevant à plus de 15 milliards de dollars. À titre de comparaison, la Pennsylvanie a généré le deuxième montant le plus élevé du revenu brut des jeux, avec 5,86 milliards de dollars. C'est une grosse industrie et c'est un gros problème. Parce que les jeux d'argent cultivent la convoitise. Peut-être cela ne vous affecte pas, mais une nation qui cultive la convoitise, c'est un problème. Elle sape l'amour du prochain, elle cultive le matérialisme et nuit à une solide éthique de travail. S'agit-il de problèmes moraux pour le tissu social de notre culture, de l'atmosphère et de l'environnement de notre nation? Mais il y a un élément supplémentaire qui rend cela particulièrement sinistre, et c'est la façon dont notre corps fonctionne. Dieu a créé en nous la capacité d'éprouver de l'excitation et un sentiment de bien-être et de plaisir en naviguant dans cette excitation et dans la nouveauté qui se produit dans nos vies lorsque nous faisons des choses différentes. Nous avons dans notre corps une substance chimique appelée dopamine qui est stimulée dans ces situations. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est la façon dont notre corps fonctionne et qui est prévue pour fonctionner de cette façon. Mais cette qualité humaine peut être exploitée. La télévision l'exploite en nous excitant avec des intrigues dramatiques, des rebondissements et des dénouements en suspens. Les partitions musicales des émissions de télévision et des films exploitent notre capacité à nous enthousiasmer. Vous est-il déjà arrivé de couper le son d'un film passionnant et de vous rendre compte qu'il n'est plus aussi excitant? C'est ce que fait la musique écrite pour les films et la télévision. Nos téléphones portables font la même chose, n'est-ce pas? Ils nous encouragent à les regarder constamment pour voir qui nous a écrit un texte ou un courriel, qui a posté une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire sur Instagram, TikTok, X, ou peut-être même Facebook pour ceux d'entre nous qui sont de la vieille école. Et il ne s'agit pas seulement de dopamine. Voici un article de l'Association américaine de psychologie. Les chercheurs s'efforcent maintenant d'affiner leur compréhension des principes psychologiques qui sous-tendent l'envie de jouer et des fondements neurologiques de ce qui se passe dans le cerveau des joueurs qui ont du mal à s'arrêter. Ces recherches vont à l'encontre des hypothèses simplistes sur le rôle que joue le neurotransmetteur dopamine dans la dépendance. Les études montrent que des variations dans le volume et l'activité de certaines zones du cerveau liées à l'apprentissage, à la gestion du stress et au traitement de la récompense qui pourrait contribuer au jeu problématique. Apparemment, nous sommes plus complexes que la simple dopamine, mais nous sommes excités par les choses, et tout cela est bien réel. Et vous voyez, Satan a utilisé le principe du plaisir, le pouvoir du désir. Comme nous le voyons depuis le début, dans Genèse 3, verset 6, nous avons lu ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Ce désir, cette excitation de quelque chose de nouveau, cela nous excite, nous stimule, et nous en voulons plus, Et le même principe est utilisé par Satan et ses serviteurs involontaires dans notre monde, le principe du mauvais désir, sans le vouloir, parce que notre monde est aveuglé. Dans notre monde, c'est la survie du plus fort, celui qui gagne le plus est le gagnant, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais comme je l'ai dit, Satan utilise cette partie de notre nature humaine, le principe du mauvais désir, pour la cultiver, pour le nourrir, afin que nous en voulions toujours plus. En réalité, il existe des désirs qui sont bons. Le désir d'avoir un mari ou une femme, par exemple, est bon. Mais un mauvais désir transforme ce bien en mal. Le désir pour la femme d'un autre homme, ou l'attrait sexuel d'un homme pour une femme sur un écran, de télévision, un ordinateur, un téléphone intelligent. Ce type de mauvais désir tire parti de ce sentiment d'excitation, cette dopamine et de tout ce qui se passe à l'intérieur, pour nous donner envie d'en avoir plus. C'est ainsi que nous devenons dépendants au mauvais désir. D'avoir plus de ce que je veux, de ce que je veux faire. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit d'argent. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6 que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Parce que ce désir d'argent est cultivé de nombreuses manières différentes. Et notre addiction moderne au jeu d'argent n'est qu'un moyen additionnel. Cette attitude qui consiste à dire « je veux ce que je veux, je le veux tout de suite et je suis prêt à risquer plus pour en obtenir plus. Je suis prêt à risquer ce que j'ai pour obtenir le gros lot. » J'utilise le mot addiction parce que le péché rend accro. Reportons-nous à 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2, verset 17. Nous dit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. » Verset 18. « Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. C'est une technique pour gagner de l'influence, du pouvoir, du contrôle. » Il dit « Par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. » Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. La corruption rend esclave, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'il s'agisse des médias sociaux où les maîtres des leviers derrière les écrans contrôlent des millions de personnes qui sont capables d'influencer, de faire bouger l'opinion, de susciter l'intérêt, d'attirer l'attention par ce qui est fait, et il en va de même pour l'ensemble de l'industrie des jeux d'argent. Il s'agit d'une activité destinée à générer de grosses sommes d'argent, et c'est ce qu'elle fait, parce qu'elle cultive notre nature humaine d'une manière erronée. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Nous décrivons donc le processus par lequel le péché, la corruption, cultive la victime, qui devient de plus en plus dépendante. D'une certaine manière, c'est vraiment similaire à une dépendance à la drogue. La dépendance commence à contrôler. Et vous savez, la normalisation de l'utilisation de l'ordinateur, des téléphones cellulaires, cela a créé un pont, certainement vers la pornographie, mais aussi vers les jeux de hasard. Voici une citation de Macquarie Center Society. Et je cite, « Selon des recherches récentes, les personnes dans la vingtaine sont le groupe dont la progression est la plus rapide pour l'utilisation des jeux d'argent. De plus, de nombreux enfants commencent à jouer de plus en plus tôt. Près de 2/3 des adolescents âgés de 12 à 18 ans ont déclaré avoir joué à des jeux d'argent ou à des jeux similaires au cours de l'année précédente, selon une enquête canadienne réalisée en 2018 auprès de 38 000 jeunes et financée par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Commencer jeune comporte un fardeau relativement élevé de détresse psychologique et de chances accrues de développer des problèmes. Je pourrais prendre plus de temps pour établir certains liens entre les jeux en général et la propension à devenir dépendant de l'écran et la façon dont le niveau suivant devient les jeux d'argent en ligne. Mais je pense que je ne le ferai pas aujourd'hui. Vous pouvez faire des recherches si vous le souhaitez. Je ne me contente pas de dénoncer un problème de plus dans notre société. Je voudrais donc prendre un peu de recul. J'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi toute cette histoire de jeu d'argent est un problème et comment il nous affecte et à quel point il affecte le monde, la culture dans laquelle nous vivons, la marmite dans laquelle nous mijotons. C'est le cas, il nous entoure tous et il peut nous engourdir, franchement, face à la réalité de la culture dans laquelle nous vivons. Parce que nous ne nous sentons pas personnellement touchés par elle. Mais si tout le monde autour de nous est touché par quelque chose, est infecté par quelque chose, pouvez-vous dire que vous n'êtes pas touché par cela? Lot pouvait-il dire cela? Ou y a-t-il un processus par lequel nous commençons à vivre confortablement, ou au moins à accepter comme normal certaines choses, y compris toute cette industrie du jeu et ce qu'elle fait? Je tiens donc à préciser que je ne me contente pas de dénoncer un problème de plus en plus présent dans notre société. Je lance un avertissement. Si nous voulons adopter l'Esprit de Dieu en suivant les principes qu'il nous a donnés pour nous guider, nous devons affûter notre sensibilité. Il faut que notre conscience soit piquée par les différentes façons dont Satan et la société émoussent nos sens, tout comme l'ancien Lot. Cela m'amène à une question évidente. Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes accro aux paris sportifs en ligne, aux jeux d'argent en ligne ou à la pornographie, que faites-vous? Et que dites-vous? Que dites-vous? Passons en revue quelques passages bibliques importants. Reportons-nous à Jean chapitre 16. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'adaptation. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, il n'y a rien à faire ». Il s'agit d'un défi auquel vous êtes confronté ou auquel quelqu'un que vous connaissez est confronté. Ce n'est pas le genre de vie que nous menons. Notre vie est une bataille contre le péché. Notre vie est une bataille pour nous désengager de ces enchevêtrements du monde qui nous entoure. Et nous avons la capacité de le faire. Nous avons les outils pour le faire. Jean chapitre 16, et nous lisons au verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous devons demander à Dieu, nous devons, à genoux, supplier Dieu de nous aider à nous libérer de l'esclavage du péché. Philippiens chapitre 4. Et cela doit être quotidien. Chaque jour est une bataille. Nous nous levons le matin et nous repartons en guerre. Nous tombons, nous luttons, mais le lendemain matin, nous nous réveillons et nous disons, « Dieu, aide-moi aujourd'hui à être comme toi. » Et nous reprenons la guerre. Philippiens 4, verset 10. Philippiens 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. En d'autres termes, je peux relever tous les défis auxquels je suis confronté dans la vie grâce à cet élément qui dit, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et nous pouvons nous poser la question de savoir si nous fonctionnons avec nos propres forces. Parce que si c'est le cas, nous ne sommes pas à la hauteur des grandes entreprises aujourd'hui qui veulent s'emparer de nos dollars, de nos yeux, et qui veulent nous rendre dépendants d'une chose ou d'une autre, dont nous n'avons pas besoin. Sans l'aide de Dieu, nous ne sommes pas à la hauteur. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée 1, verset 6, est un passage familier qui devrait résonner à nos oreilles, qui devrait faire écho à nos oreilles. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Paul écrivait à Timothée, sachant qu'il était confronté en tant que jeune homme au même défi que tous les autres jeunes hommes. Il dit au verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il n'y a personne qui ne puisse surmonter, avec l'aide de Dieu, l'une ou l'autre des dépendances si répandues dans notre société. » Cela peut sembler une réponse toute faite, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un guide pour notre guerre quotidienne contre les défis de Satan et de notre société, les péchés, les dépendances, les attraits qui nous attirent vers le monde d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10. Cela devrait nous réconforter, car nous pouvons nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls. 1 Corinthiens chapitre 10. Tel a été le défi, la bataille pour tous ceux qui veulent suivre Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous constatons que Paul met en lumière l'exemple de nos ancêtres. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous avons un exemple de cause à effet. En lisant l'histoire des anciens Israélites, nous nous rendons compte de ce qui se passe lorsque nous tournons le dos à Dieu, lorsque nous ne lui obéissons pas. Nous apprenons la leçon du fruit, la conséquence. Il dit donc au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Nous pensons que nous pouvons nous tenir debout seuls. Nous pensons pouvoir résister au vent de la force d'un ouragan. Nous ne faisons pas le poids. En venant ici, nous avons appris ce qui se passait à Asheville. Vous avez peut-être vu des images, des vidéos des rivières et des inondations massives. Vous avez peut-être vu un carrefour où une grosse semi-remorque ou un camion de location ont été emportés flottant sur les eaux en furie dans ce qui était une rue. Vous pensez que vous pouvez vous opposer à cela et dire « Oui, venez les inondations !» Ce n'est pas physiquement possible. Et spirituellement, nous ne pouvons pas, sans l'aide de Dieu, résister à Satan, à ses ruses et à l'influence qu'il exerce sur ce monde. Mais il dit au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Soit ceci est vrai, soit Dieu est un menteur. Soit il peut nous aider à vaincre n'importe quelle dépendance, soit il est un menteur, parce que c'est ce qu'il a inspiré d'être écrit. Nous pouvons vaincre les attraits de la chair. Nous pouvons faire l'expérience du plaisir sans être la proie de ce plaisir qui nous consume. Ainsi, si vous êtes déjà dépendant au jeu d'argent, des jeux en ligne, de la pornographie, des médias sociaux, voici quelques points à garder à l'esprit. Tout d'abord, point numéro un, il faut être plus sensible au problème, plus sensibilisé, parce que lorsque nous sommes plus sensibilisés, nous reconnaissons ce dans quoi nous nous engageons, nous reconnaissons les fruits, nous reconnaissons les conséquences. Si nous sommes plus sensibilisés, nous comprenons mieux comment une action apparemment anodine peut avoir des conséquences profondes. Nous devons être plus sensibilisés, pas moins. Et nous devons certainement reconnaître la dépendance au péché dans nos vies, reconnaître ce à quoi nous avons affaire. Nous devons demander à Dieu de nous aider et de nous donner la force d'aiguiser notre conscience. Nous devons résister, nous devons nous éloigner, nous retirer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peut-être. Si Adam et Ève s'étaient éloignés pour ne pas pouvoir prendre ce fruit, c'est ainsi que nous nous éloignons du péché ou de la tentation, quelle qu'elle soit. Certains chercheurs considèrent que les jeux d'argent sont l'addiction qui se développe le plus rapidement chez les adolescents. Les jeunes Américains n'ont jamais connu la vie sans jeux d'argent légalisé, ce qui peut leur donner l'impression que ce n'est pas une grosse affaire. Cela peut leur donner l'impression que c'est acceptable, normal, que ce n'est pas important. Mais en fin de compte, nombre d'entre eux sont tentés et poussés par leur père à participer. Nous devons éduquer nos enfants, et non pas les enfermer dans une bulle de plastique, et c'est là le fin équilibre à atteindre. Nous ne souhaitons pas que nos enfants s'imprègnent des perversions de ce monde, mais en créant une bulle de plastique autour d'eux, plutôt que de développer en eux la force et le caractère nécessaires pour y faire face, nous leur faisons du tort. Comment former nos enfants? Reportons-nous à Deutéronome chapitre 6. Comment devons-nous aborder nos enfants pour qu'ils apprennent ce qui est bien et ce qui est mal? Il s'agit d'enseigner et de former. C'est simple, Mais dans quelle mesure le faisons-nous vraiment? Lorsque nous lisons ici la formation divine qui aide nos enfants à lutter contre toutes sortes de tentations et de défis, il s'agit en fait de deux étapes. D'abord, apprendre et leur enseigner l'obéissance. Car s'ils apprennent à vous obéir en tant que parents, ils acquièrent une discipline qu'ils peuvent ensuite appliquer eux-mêmes. Les enfants qui n'apprennent pas la discipline de leurs parents ne sont pas en mesure de l'acquérir par eux-mêmes, comme par magie. Il s'agit donc pour nous d'apprendre à nos enfants la bonne réponse à « non ». Et de nombreux parents n'apprennent pas à leurs enfants la bonne réponse au « non ». Ainsi, lorsqu'ils disent « non », leurs enfants font tout sauf « non ». Mais nous rendons un très mauvais service à nos enfants si nous ne leur apprenons pas la réponse au « non », qui est l'obéissance. Cela ne signifie pas que nous devons créer des automates, mais nous devons apprendre à nos enfants ce qu'est un « non ». Il y a des gens qui grandissent, il y a des adolescents qui ne savent pas comment répondre à un « non ». Quand vous dites « non », ils disent « eh bien, vous ne comprenez pas ». Ils disent « j'ai une excuse, j'ai une raison, je me sens comme ça ». Je sais que tu dis non et je te comprends, je comprends ton opinion, je comprends ta position, mais je vais quand même faire ce que je veux. Il y a des adolescents et des jeunes, et peut-être aussi des adultes, comme nous, je suppose. Mais si nous n'apprenons pas à répondre au nom de Dieu, comment pouvons-nous appliquer cette discipline à nous-mêmes? Quand nous commençons à comprendre la pensée de Dieu et que nous reconnaissons que nous devons éviter cela, même si Dieu ne dit pas spécifiquement « non », je peux voir que son esprit est « non » à cela. Ensuite, nous nous imposons cette discipline. Nous lisons ici dans Deutéronome chapitre 6, verset 6. Deutéronome chapitre 6, verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. » Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En d'autres termes, il s'agit d'une formation. C'est la pratique. Et il dit au verset 8, « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent faire face aux défis et aux tentations et prendre les bonnes décisions. » Au lieu d'avoir l'impression que nous devons toujours prendre cette décision à leur place. Non, les enfants peuvent apprendre à prendre de bonnes décisions, et ils devraient le faire si nous les éduquons comme il se doit. Faire de l'enseignement un élément de la vie quotidienne, il s'agit notamment de discuter des bons et des mauvais exemples tirés de l'actualité, des divertissements, des exemples personnels, et de ce à quoi nous les voyons participer. Il faut savoir que nos enfants voient beaucoup plus de choses que la plupart des parents ne le pensent. Ils voient, ils vivent, ils sont en contact avec beaucoup plus de choses dont je parle aujourd'hui que la plupart des parents ne le pensent. Je vous le dis, nous faisons l'autruche si nous ne sommes pas conscients, si nous ne faisons pas l'effort total d'être conscients, de nous engager pleinement et de former nos enfants pour qu'ils puissent faire face à ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. Je répète, entraînement. Cela ne signifie pas que nous les exposons d'une manière ridicule, mais en même temps, nous devons leur apprendre à détourner les yeux et quand ne pas cliquer sur un site. Nous devons leur apprendre à le faire. Nous lisons ici que nous devons leur enseigner la voie à suivre. Je parle de différentes actions que nous pouvons entreprendre, et j'ai mentionné des actions concernant la manière dont nous devrions faire face à certaines de ces tentations. J'ai un peu parlé de la prochaine génération. Mais qu'en est-il de l'exemple que nous donnons à nos enfants? Sommes-nous obéissants à Dieu? Sommes-nous sensibles aux principes de Dieu? Ou essayons-nous de trouver un échappatoire, une exception? Comment agissons-nous? Quel genre d'exemple donnons-nous? Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. N'est-ce pas ce dont nous avons parlé aujourd'hui? La facilité avec laquelle nous nous laissons prendre au piège et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, afin d'être le genre d'exemple décrit par cette grande nuée de témoins. Soyons capables de faire face à ceux qui nous ont précédés lorsque nous en aurons l'occasion à l'avenir et de les remercier pour l'exemple, pour la diligence dont nous avons entendu parler, pas seulement ici, mais aussi pour ceux qui ont été fidèles et diligents au cours des dernières décennies. Vous savez, à l'approche de la fête, je pense que c'est un bon moment pour regarder autour de soi et remarquer les vieux routiers. Regardez ceux qui sont encore là. Regardez ceux qui, comme ceux qui meurent dans la foi, reconnaissent que c'est un accomplissement en or. Nous pouvons facilement l'oublier dans notre culture actuelle centrée sur la jeunesse. Mais nous devons nous rappeler que l'héritage que nous laissons est important pour ceux qui viennent après nous. Il est important pour nos enfants. C'est un sujet qui a été abordé au fil des ans. Trois articles me sont venus à l'esprit pendant que je réfléchissais à ceci. L'un est de M. O'Gwin, « L'égalisation des jeux, boom économique ou effondrement social ». Cet article, en anglais seulement, a été écrit il y a environ 15 ans. « Le jeu d'argent monte en flèche » que M. Josh Lyon a écrit il n'y a pas si longtemps. Mais c'était, je pense, avant qu'il ne déménage vers le Nord. Puis, il y a une émission anglaise que M. Weston a faite, intitulée « You bet your life, vous pariez votre vie ». Mais je voudrais lire un extrait d'un texte encore plus ancien. Il a été écrit il y a 53 ans. Il s'agit d'une brochure intitulée « The Modern Romans », publiée il y a 53 ans. Elle faisait partie des publications de l'Église universelle de Dieu. En voici un extrait. Les héros sportifs passionnaient la population. Rome dotait ses héros sportifs professionnels d'une grande gloire. Les conducteurs de chars ont également connu la gloire, voire plus. Bien qu'ils furent d'origine modeste, principalement des esclaves affranchis, seulement après des succès répétés, ils étaient sortis de leur humble condition par la renommée qu'ils s'acquéraient et la fortune qu'ils amassaient rapidement grâce aux cadeaux des magistrats, des empereurs et aux salaires exorbitants qu'ils percevaient pour rester sous les drapeaux. Et ceci est tiré d'un livre, Daily Life in Ancient Rome, la vie quotidienne dans la Rome antique. Puis il continue, la manie du jeu. Il s'agit de la Rome antique, mais ce texte a été écrit il y a 53 ans dans la brochure Les Romains modernes, que certains d'entre vous ont peut-être dans leur bibliothèque. Il y a aussi la question des paris sur les activités sportives. Les riches de Rome en ont profité. Mais la dévotion passionnée que les conducteurs de chars inspiraient à tout un peuple était également alimentée par des sources plus viciées. Elle était liée à la passion du jeu. La victoire d'un conducteur enrichissait les uns et appauvrissait les autres. L'espoir de gagner de l'argent non gagné tenait la foule romaine sous son emprise d'une manière d'autant plus tyrannique que la plus grande partie d'entre elles était au chômage. Les riches risquaient une fortune, les pauvres leur dernier sou. Les piliers de notre société s'effritent. L'honneur, l'intégrité, le sens de la bonté s'érodent presque sous nos yeux, comme les eaux de crue qui descendent des montagnes. N'acceptons pas les manières et les normes de notre société qui s'enfoncent de plus en plus. Nous devons faire preuve de discernement, apprendre à discerner et aiguiser notre conscience avec précision. Hébreux 5, à partir du verset 12. Hébreux 5, à partir du verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Nous désirons le contraire. Nous désirons être habiles, n'est-ce pas? Si nous voulons suivre cette instruction, il nous dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, ou il peut être traduit par l'habitude à discerner, ou par l'habitude de discerner ou de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. » Nous devons apprendre à discerner et à prendre note, à exercer notre conscience, à l'aiguiser sur ce qui se passe autour de nous pour notre propre bénéfice. Ainsi, ne nous laissons pas entraîner sur les bords. Nous avons également des conseils et des instructions claires pour les autres que nous voyons glisser vers des zones problématiques, en particulier pour notre jeune génération qui subit cet assaut de toutes parts de ses valeurs renversées, inversées, et de ses versions déformées de la bonté dans tout ce qui nous tient à cœur. Nous devons être en mesure de les renforcer et de les encourager. Revenons à Genèse 19, verset 15. Genèse 19, verset 15. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Verset 16. « Et comme il tardait, Lot ne dirigeait pas. Il n'y avait pas de consensus. Comme il tardait, les hommes, les anges, avec clémence, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Frères et sœurs, soyons attentifs à ne pas devenir à l'aise avec les normes de notre société. Aiguisons notre conscience pour qu'elle reflète l'Esprit de Dieu et l'attitude de Dieu à l'égard du péché, afin que nous puissions diriger dans un monde nouveau et ne pas nous attarder dans l'ancien.